émission imaginaire, imaginaire avec un J. Au menu de cette première, une présentation de l'association aux commandes de cette émission, un petit peu de musique, la rubrique scientifique de Patrice. Nous aborderons également l'Uchronie, ce courant de littérature, de science-fiction. Mais avant tout, une petite présentation de l'équipe. Romain, à la technique.
Bonjour.
Antoine, le maître S. Indus, et non pas maîtresse Indus.
Bonjour.
Jean-Hugues.
Bonjour.
Patrice, qui va nous rejoindre en cours d'émission, et moi-même, Julien. Pour commencer, rien de mieux qu'une petite présentation rapide de l'association Imaginaire. Et pour cela, je vais poser quelques questions à notre président, Jean-Hugues Villacampa. Donc Jean-Hugues, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur le Président. Doit-on vous appeler Monsieur le Président ?
Eh ben, on n'est pas obligé, non.
Non, on peut pas vous, on peut vous tutoyer aussi ?
Oui, oui, on peut.
Bon. Alors déjà donc, première question, toute simple pour nos auditeurs, peux-tu te présenter ?
Oui, absolument. Alors, je suis Jean-Hugues Villacampa. Je suis un immense fan de littérature populaire depuis très longtemps. J'ai collaboré dans des magazines liés aux jeux de rôle, liés à la science-fiction. J'ai monté une boutique à Paris qui était très liée aussi aux jeux de rôle et à la science-fiction. Et il y a 8 ans, je me suis installé sur Angers pour monter une boutique qui est un bouquiniste qui est lié à l'imaginaire, donc tout ce qui est science-fiction, fantastique, polar, fantasy, et puis littérature jeunesse, aventure, toutes ces choses-là.
D'accord. Non.
Alors, cette boutique, au bout de quelques mois, des fans de la boutique se sont rassemblés et autour des livres qu'on exposait, des discussions ont commencé. Et puis, j'ai fait la connaissance de Jean-Paul Guéry. Jean-Paul Guéry, qui est le rédacteur en chef de La Tête en Noir. La Tête en Noir étant le fanzine, le plus grand fanzine français gratuit du polar, qui existe depuis plus de 25 ans. À l'époque, il existait depuis une vingtaine d'années. Déjà, c'était pas mal. Et à qui j'ai proposé de mettre sur notre site internet le fanzine qui n'était pas distribué de façon numérique.
D'accord.
Et avec quelques amis, dont certains sont autour de cette table, nous sommes dit, et si nous faisions, nous aussi, notre fanzine. Et c'est comme ça qu'est née La Tête en l'air, qui s'est d'abord appelée La Tête dans les étoiles, et qui s'appelle maintenant La Tête en l'air, et qui existe maintenant depuis plus de 3 ans.
Donc combien de numéros pour ce fanzine ?
Eh bien donc 18, alors sachant qu'on a un numéro 0, donc il faut rajouter toujours 1 au numéro courant. Mais oui, 18 numéros qui sont distribués dans la boutique Filamenji et numériquement sur notre site internet, en sachant que l'info est relayée sur les plateformes sociales et choses comme ça.
D'accord. Je me permets juste de déplaire rapidement pour nos auditeurs imaginaires.
Oui.
C'est I-M-A-J majuscule N apostrophe E accent grave R-E. Donc une petite orthographe originale.
Oui, absolument. Alors c'est fait, c'est lié à 2 choses. Alors d'abord, on voulait que ça donne l'idée d'imaginaire immédiatement. Et puis la boutique s'appelle Filamenji, on voulait que ce J se retrouve dans le... Puisque l'association est née de des rencontres qui sont liées à la boutique.
D'accord.
Alors à ce niveau-là d'ailleurs, pour que les choses soient bien claires, les structures de l'association Imaginaire et de Filamenji sont complètement séparées. Donc les seuls liens qu'il peut y avoir sont faits par le fait que cette littérature se trouve dans la boutique et que des membres de l'équipe font partie du staff Filamenji.
D'accord. Et donc cette association, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est son objet ?
Alors en fait, c'était au départ un groupe, c'est-à-dire que c'était pas du tout associatif. Les chroniqueurs de La Tête en l'air étaient des amis qui se retrouvaient, qui discutaient de choses et d'autres. Et puis nous est venue l'idée d'un projet plus grand, qui a avorté dans sa première version où on était lié avec une association. Et puis ça n'a pas pu se faire, et on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau avec les prémices de l'organisation d'une convention qui était faite. Et on s'est dit, et pourquoi pas le faire nous-mêmes tout seuls, comme des grands. Et donc là, on a créé l'association Imaginaire, donc c'était en octobre 2011, comme le disait Patrice hier.
2010.
Oui, m'en parlez pas. Donc, cette association a été créée pour organiser la convention et gérer à terme le fanzine et puis tout ce qui pouvait résulter de ces choses-là. Alors, on s'est dit, faire une convention, c'est bien, inviter des auteurs, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à faire la chose tout seul, c'est-à-dire sans aide extérieure. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque la mairie nous a aidés, puisqu'ils nous ont fourni une salle, qui était la Tour Saint-Aubin. Mais sinon, on s'est dit, bon, est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, dans un système associatif, de créer quelque chose qui dure et qui soit viable? Donc, c'était pas très simple, parce que, par exemple, ce que savent pas nos éditeurs, c'est que quand nous invitons des graphistes ou des auteurs à venir à une convention, eh bien, tous les frais liés à leur déplacement et à leur hébergement sont assumés par l'association. Alors, il y a ça, et il y a tout un tas de petites choses. Il faut louer un peu de matériel. Donc, ça engendre quand même des budgets qui, sur le principe associatif, sont pas complètement nuls. C'est-à-dire que, soyons clairs, on est entre 3000 et 4000 euros de budget par convention. Il faut avoir cet argent. Donc, on s'est dit, et comment allons-nous faire sans frapper à la porte de tout le monde pour avoir de l'argent? Et nous avons décidé d'éditer. Alors, l'association éditerait un recueil de nouvelles, sur une thématique, dont les auteurs seraient, d'une part, les membres de l'équipe imaginaire, qu'ils souhaiteraient, si leur texte était d'une valeur suffisante pour faire partie du recueil, d'autre part, des invités à qui on demanderait gracieusement de nous écrire une nouvelle qui serait, bien entendu, libre de droit par rapport à nous. C'est-à-dire que, bien entendu, quand un auteur écrit une nouvelle et nous l'offre, en fait, il nous offre son utilisation. Il reste propriétaire de son texte. Et puis, ça s'est plutôt pas mal passé la première année, où la thématique était le vampire, où on a fait un recueil qui s'appelle Histoire d'eau, qui regroupe une douzaine de nouvelles sur le vampire, avec un pitch qui est « Les vampires ne mangent pas de guimauve », c'est-à-dire que, loin des blockbusters qu'on avait pu voir à la télévision ou au cinéma, on a fait un texte avec des vampires qui étaient les vrais vampires.
Des vrais vampires assoiffés de sang.
Assoiffés de sang. Et l'année après, on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire un concours de nouvelles où, justement, des éléments extérieurs au groupe et aux professionnels pourraient essayer de passer leur texte. C'est ce qu'on a fait. On a récupéré, on a choisi trois nouvelles qui sont parues dans Uchronique, qui était le recueil de cette année.
Oui, Uchronique, donc on va revenir d'ailleurs un petit peu sur ce thème. Mmh. On a voulu que cette première émission consacrée à l'association, animée par cette association, puisse faire un petit peu le tour de ce que c'est que l'Uchronie, présenter un petit peu ce genre littéraire, si on peut parler d'un genre. Mais avant qu'on arrive sur ce point-là, est-ce que cette association, est-ce qu'Imaginaire a des projets à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui est prévu?
Alors, il y a bien entendu des projets, c'est-à-dire que, d'une part, nous sommes en train d'organiser une émission de radio.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, absolument. Alors, je sais que ça peut surprendre tout le monde autour de cette table, mais nous sommes en train de...
sur Radio G.
Et qui permettrait de présenter le travail d'association, mais pas que, tout ce qui gravite autour de la science-fiction, du fantastique et de la littérature populaire en général, c'est-à-dire y compris le roman policier et des choses de ce style, l'aventure. Alors ça, c'est le premier projet sur lequel nous sommes impliqués directement. Et puis, nous préparons dès aujourd'hui la convention qui va avoir lieu du 6 au 9 juin 2013, qui ne va pas se passer dans la Tour Saint-Aubin, mais dans un lieu beaucoup plus vaste, les salons Kurlonski, et dont la taille sera trois fois supérieure à la Tour Saint-Aubin. Donc, profitant de cet espace, on va faire une zone qui sera réservée à la science-fiction, au fantastique et à la fantasy, comme les deux années précédentes, une nouvelle zone dédiée au polar, et une zone surprise. Donc, pour la zone science-fiction, fantastique et fantasy, elle va être animée par l'équipe imaginaire et de la tête en l'air. La zone polar va être animée par l'équipe imaginaire et par des membres du fanzine La Tête en Noir. Quant à la zone dite surprise, elle sera animée par des membres d'Imaginaire.
Surprise.
Voilà. Donc ça, c'est les deux projets majeurs sur lesquels nous sommes concentrés. En sachant que, du coup, pour l'occasion, il y aura deux recueils de nouvelles qui paraîtront l'année prochaine. Une qui sera science-fiction, fantastique et fantasy, et une autre qui sera polar noir, dont les thématiques sont en discussion, mais dont on devrait avoir les résultats incessamment sous peu.
Très bien. Donc beaucoup de projets, plein de choses à faire.
Beaucoup de projets, on parle même peut-être d'un numéro hors série sous forme de livre à la fin de l'année. C'est en discussion avec les membres d'Imaginaire, le débat est soulevé, donc on va voir comment ça va se passer, mais il y a des projets de ce genre-là. C'est-à-dire que pourquoi pas, Imaginaire pourrait aussi devenir éditeur, enfin tous les projets sont possibles. Et en fait, c'est lié à l'équipe d'Imaginaire qui est composée. Alors, faut savoir qu'à Imaginaire, l'association, on dit pas, bah tiens, moi je veux faire partie d'Imaginaire et j'arrive.
Merde. Alors, justement, je voulais demander comment peut-on aider l'association. J'imagine que là, il y a peut-être des hordes d'auditeurs en furie,
oui,
qui n'attendent qu'une chose, c'est d'aider, de s'investir par rapport à Imaginaire. Que peuvent-ils faire?
Alors, il faut savoir que dans l'association Imaginaire, il y a les membres actifs qui sont on rentre à Imaginaire par cooptation, ce qui est une méthode un petit peu brutale, mais on rentre pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des sous et qu'on voudrait faire partie du groupe que on rentre. C'est pas du tout comme ça que ça se passe.
Club de gentlemen.
Oui,
c'est gentlewoman.
Alors oui, c'est important de le dire. Hein. En fait, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a contrairement à ce qu'on peut voir dans cette émission, il y a autant de femmes que d'hommes dans l'association Imaginaire aujourd'hui. Et donc cette rentrée par cooptation, effectivement, faut être porteur d'un projet. Alors, moi je suis un excellent chroniqueur, d'ailleurs je vais vous le prouver, je vous envoyais des trucs, moi j'ai un projet qui pourrait se réaliser comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux m'inclure dans votre groupe?
Force active, quoi, éléments moteurs.
Voilà. Alors, il faut savoir que les statuts d'Imaginaire sont consultables sur le site de Phénomène J à la rubrique Imaginaire. Il faut savoir que les qualités réclamées à un membre de l'association Imaginaire sont petit 1, le talent, petit 2, d'être corvéable à merci.
Ça donne tout de suite envie.
Voilà, tout à fait. Donc, et il faut savoir que on rit autour de la table, mais au moment où il faut en donner un coup, c'est vrai que toutes les forces de l'association et des membres de l'association sont mises en œuvre, et que vous êtes tous bien placés autour de cette table pour le savoir. Ça demande et du temps et d'énergie, et on se fait du souci, et il y a des trucs qui s'arrangent pas comme on voudrait, et il faut absolument que un des membres de l'équipe prenne le problème et l'assume. Enfin, c'est vraiment voilà. Et puis il y a autour de l'association Imaginaire, il y a des gens qui gravitent, qui ne souhaitent pas spécialement rentrer dans l'association ou participer à l'ensemble de ces manifestations, mais qui disent moi pendant la convention Imaginaire, ça dure 4 jours, je suis prêt à vous donner un coup de main, faut soulever des cartons, faut tenir une caisse, voyez. Donc après, il est possible
de s'investir un petit peu, de manière un peu pas bénévole militant, quoi, un petit peu.
Alors en fait, c'est bénévole militant. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme dans toutes les manifestations publiques, c'est-à-dire que quand on a des grands écrivains ou des grands illustrateurs, comme on a pu avoir Philippe Cazza, Manchou, Roland Wagner, Laurent Genefort, des gens comme ça, c'est vrai que quand on fait partie du staff, on a des contacts. Alors on a de très bons contacts en étant visiteur, parce qu'on se débrouille pour que les contacts soient excellents. Mais en même temps, quand on fait partie du staff d'organisation, il y a un truc en plus, puisqu'on donne un coup de main, on va l'aider, on va barrer à un moment, et il va y avoir quelqu'un qui va être obligé d'aller dans la queue, de dédicace, et dire, non, ça s'arrête là, parce que sinon, il va mourir. Donc, le fait d'être son ange gardien fait que, forcément, ça crée un lien. On l'a vu avec Pierre-Marie, qui était un stagiaire de Phénomène J, et Manchou, il s'est créé un truc, quoi. Donc, voilà. Donc, il peut y aussi y avoir cette façon-là de participer à nos manifestations. Mais ceci dit, le fait d'avoir un projet ou d'avoir la volonté de réaliser quelque chose autorise quiconque à venir nous voir en disant moi j'ai tel projet. En fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un désire rentrer dans l'association, l'association se réunit mensuellement ou tous les 2 mois et arrive en disant moi, j'ai Maurice qui veut rentrer dans l'association. Il est porteur de ça. On le connaît, généralement on le connaît, parce que s'il est vraiment en vie, donc les autres membres le connaissent aussi. Et on va dire, il a ça comme qualité, il a ça comme défaut. Et donc, oui ou non. Par exemple, on a eu hier une réunion Imaginaire où la rentrée d'un dénommé Romain dans l'association a été validée par l'ensemble des membres du groupe à l'unanimité.
Merci.
Bienvenue Romain, donc.
Bienvenue à Romain, effectivement. Sans qui nous ne serions pas là, d'ailleurs, qui nous permet d'enregistrer cette émission et de tripoter tous les petits boutons.
Sur Radio G 101.5.
Bon, ben merci beaucoup pour ces questions, ces réponses, surtout, monsieur le Président. Alors, on enchaîne
tout de suite. Sur un morceau surprise.
Dans tous ces miroirs.
C'était Brain Damage.
Brain Damage, qui est le groupe de Roland Wagner.
De Roland Wagner, voilà.
Voilà, exactement. Ouais. Qui était au chant et à la composition des textes sur ce morceau. Donc, les Miroirs du Temps, extrait de leur 45 tours virtuels, qui s'appelle Dropped Out 68, qui est un petit clin d'œil à Timothy Leary. Et donc, Brain Damage, donc, groupe de rock new wave, garage psyché français, formé en 77 et que Roland C. Wagner a rejoint en 1983.
D'accord. Donc voilà. Oui, parfaitement dans la thématique de cette émission. Effectivement.
Tout à fait, parce que Roland Wagner a donc écrit une nouvelle pour le dernier recueil.
Chronique, absolument.
Une nouvelle qui est fortement liée elle-même à son roman Rêve de gloire.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Rêve de gloire, c'est le roman Chronique de Roland C. Wagner. Tyrannosaurus Imperium nous en parlera peut-être un jour. Et deux novellas, en fait, c'est-à-dire de la grosse nouvelle de 80 000, 90 000 signes sont sorties en lien avec Rêve de gloire. Une dont je ne me souviens absolument pas le nom, paru chez La Talente, et une qui est sortie dans le recueil Uchronique, édité par Imaginaire.
Et qui s'appelle L'été insensé.
En tout cas, Romain, tu as très bien fait de signaler le lien avec Timothy Leary, parce que la nouvelle de Roland, justement, L'été insensé, est fortement, très très fortement imprégnée de toute cette culture beatnik et fait allusion à des événements bien précis qui ont eu lieu durant une période donnée. Et donc le parallèle était, enfin le choix musical était très très bienvenu.
Et on retrouve Timothy Leary dans Rêve de gloire aussi, non? Je ne l'ai pas encore lu, moi. Il me semble. Hein.
Oui, bien sûr, on en parle. Oui. Parce qu'il est à l'origine de la naissance du mouvement vautrien.
Donc nous enchaînons tout de suite sur la rubrique scientifique de Patrice. Pour cette première émission, tu vas nous parler des...
Je vais parler du boson de Higgs. Et je vais vous en parler parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. On a récemment entendu dans les médias, lu des articles de journaux différents à droite à gauche, qui nous disaient que le boson de Higgs venait enfin d'être découvert. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux boson de Higgs ? Avant de le définir plus précisément, il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est qu'un boson. Parce que la plupart d'entre vous ont
c'est
certainement... On dit, oui.
Boson, le boson.
Il y a même le Monde qui a titré le boson futé. Bon, beaucoup d'entre vous ont certainement entendu prononcer le mot boson pour la première fois en apprenant que le boson de Higgs avait été découvert. Alors qu'est-ce qu'un boson ? Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est la composition de la matière. Bon, si on reste simple, la matière est composée d'atomes. Ça, tout le monde sait à peu près ça. Atomes qui eux-mêmes sont divisés, enfin sont construits de la manière suivante. Un noyau composé de protons et de neutrons avec un électron qui tourne autour. Alors je vous dis ça et tout de suite vous voyez une sorte de petite planète avec des petites boules et puis une petite bille qui tourne autour qui s'appelle, ou plusieurs petites billes qui s'appellent l'électron. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas ça du tout. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail sinon vous allez très vite larguer.
Docteur Manhattan nous aurait menti donc.
En fait, essayez de voir ça plutôt comme des vibrations et comme des objets qui peuvent être statistiquement à certains endroits et pas à d'autres que comme des billes qui tournent. Bref. Mais pour plus de commodité, on gardera toujours cette représentation électron, proton, neutron. Alors les protons et les neutrons eux-mêmes sont composés de quarks. Et la matière, toute la matière stable que vous voyez vous-même...
Non, moi je suis pas stable.
Autour de la table, l'univers entier, qui est stable, donc, est composé de, en fait, quasiment de quatre particules. Deux quarks, qui forment les protons et les neutrons, l'électron et le neutrino. Et là, vous avez la matière stable. Et on appelle ça des fermions. Première catégorie de particules. Ensuite, vous avez constaté, certainement, par exemple, quand vous mettez deux aimants face à face, ils se repoussent. Vous savez que les particules de même signe s'attirent. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Se repoussent, tu veux
dire. Merci.
Ouais.
Il y en a un qui suit. Deux particules de même signe se repoussent et deux signes contraires s'attirent. Et ça, c'est à cause du champ électromagnétique. Alors, on dit champ, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a une force qui agit dans l'univers sur certaines choses. En fait, dans la pratique, il y a quatre forces. Il y a donc la force électromagnétique, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et la gravitation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de ce que c'est la nucléaire faible et la nucléaire forte. La gravitation, tout le monde voit à peu près ce que c'est, puisqu'on a les pieds sur Terre et qu'on ne s'envole pas
tous
en même temps. Et l'électromagnétisme, on voit aussi ce que c'est ce qui conduit à avoir des lampes qui éclairent et un tas d'autres applications pratiques dans la vie quotidienne. Donc ces forces, elles sont aussi véhiculées par des particules. Et les particules qui véhiculent ces champs, ces forces, on appelle ça des bosons.
Ah.
Alors un boson bien connu, le photon, qui est en fait le boson qui véhicule le champ électromagnétique. Ce boson particulier, le photon, n'a pas de masse, il va à la vitesse de la lumière, c'est la lumière même par définition, et il n'a pas de masse parce qu'en fait s'il en avait une... pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Donc voilà. Mais il se trouve que d'autres particules ont une masse. Bien. Parlons maintenant un peu d'unification. Quand on parle de champ électromagnétique, en fait, on parle de deux choses. On parle d'électricité et de magnétisme. Maintenant, on dit électromagnétique et ça choque plus personne qu'on ait réuni ces deux forces en un seul mot. Eh bien, les physiciens pensent que au commencement de l'univers, les quatre forces fondamentales que j'ai citées précédemment étaient une seule et même force. Et que c'est après, en ce refroidissement, que l'univers aurait dissocié ces forces. On appelle ça une brisure de symétrie. Les choses se seraient distinguées en quatre forces différentes. Malgré tout, quand on a une théorie comme ça, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. On a réussi jusqu'à présent à unifier l'électromagnétisme et la force nucléaire faible. On entend parler maintenant de force électrofaible. On sait que on a réussi donc à deux forces, on sait les.
Ah ouais, j'avais un copain qui était électrofaible. Oui,
il est électrofaible, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que toutes ces théories que je vous balance comme ça en quelques mots aux oreilles ne fonctionnent que parce que derrière on fait à la fois des observations, mais aussi des calculs, des équations qui permettent de prévoir les choses telles qu'elles se passent. Et ces calculs disent que pour que les forces électromagnétiques et nucléaires faibles soient réunies, il faut que les particules aient une masse nulle. Or, on sait bien qu'elles n'en ont pas. On mesure, on sait mesurer la masse de l'électron, la masse du proton, du neutron. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas.
C'est là que Higgs entre en scène ou pas ?
Alors c'est à peu près là que Higgs entre en scène dans les années 60. En fait, ce boson de Higgs, ça fait très très longtemps qu'on en parle. Il entre en scène, mais pas tout seul. Alors si on veut être vraiment honnête, il faut citer Brout, Engler, Hagen, Guralnik, Keble, enfin bref, qui ont à peu près tous en même temps contribué à cette découverte. Ils ont une idée géniale. Ils se sont dit, mais en fait, si la masse des particules n'était pas une propriété intrinsèque des particules, mais quelque chose d'externe qui les ralentirait.
Comme des obstacles sur leur route.
Je vais m'expliquer. Quand on voit quelqu'un qui est... Plus quelqu'un est gros, plus on a l'impression qu'il a du mal à se déplacer.
Oui.
Et inversement, on peut se dire que si on voit quelqu'un qui a du mal à se déplacer, on va peut-être en conclure qu'il est gros. Et donc, on va interpréter sa difficulté de déplacement par une masse. C'est la même chose pour les particules. On interprète l'inertie, le fait qu'elles vont moins vite que la lumière, qu'elles ont du mal à se déplacer, comme une masse. Hein, mais par contre, si vous voyez Jessica Alba, par exemple, vous voyez ?
Oui, on voit bien.
Elle n'est pas spécialement massique.
Ça a réveillé nos quelques auditeurs qui avaient commencé à piquer du nez.
Elle n'est pas spécialement massique. Par contre, si elle est entourée de fans en délire, elle va avoir beaucoup de mal à se déplacer. Et nous, si ce sont des fans invisibles, on va se dire, ah bah qu'est-ce qu'elle a comme poids, elle a du mal à se déplacer.
Comment ça se fait qu'elle est si lente ?
Voilà. Eh bien, c'est un peu l'idée qu'ont eu Higgs et ses confrères, c'est de se dire, il y a un champ qu'on n'a pas encore détecté, appelons-le le champ de Higgs pour éviter tous les noms supplémentaires, et ce champ est donc véhiculé par un boson, hein, comme il se doit, comme tous les autres champs, et ce champ ralentit les particules, et ce ralentissement, nous, on le perçoit comme une masse.
Et donc, est-ce que c'est lié plus ou moins, question totale néophyte qui surfe un petit peu sur Internet, et pas plus, à ce qu'on appelle la matière noire ?
Là, pour l'instant, non.
Non, bon, tant pis.
Mais je peux en dire un mot tout de suite après.
D'accord.
Il pourrait peut-être y avoir une liaison, mais pour l'instant, non. On va dire que non. Donc, ce boson, il fallait encore le découvrir. La théorie le prévoyait, les calculs étaient faits. On savait à peu près quelle était son énergie, sa masse, etc. Et tout. Et en quelque sorte, on pourrait dire, tous les bouquins étaient écrits, il manquait plus que la photo.
Fallait le flasher, quoi.
Pour obtenir cette photo, c'est pas simple, parce que dans la recherche des particules en physique, pour arriver à détecter des particules hautement énergétiques, il faut aussi beaucoup d'énergie. Et jusqu'à présent, on n'avait pas les outils suffisamment énergétiques, suffisamment puissants, pour pouvoir détecter ce type de particules. Ah, y a un autre moyen, c'est faire beaucoup d'expériences. C'est un peu le
multiplier les tests, quoi.
Multiplier les tests, oui, parce qu'en fait, il y a un côté statistique dans la recherche des particules. Donc, soit vous faites des milliards d'expériences en espérant tomber sur un cas qui va vous révéler ce que vous cherchez, soit vous augmentez l'énergie et à ce moment-là, vous avez besoin de moins d'expériences. Ces outils-là n'existaient pas. Et puis, en 2001, le CERN à Genève, là, avait déjà un appareil qui est une sorte d'anneau qui permet d'accélérer les particules et qui fait 30 km de circonférence et qui est à moitié sur la Suisse et à moitié sur la France, a décidé d'augmenter la puissance de cet appareil, donc de le stopper pendant environ 2 ans pour faire des travaux.
Il n'y a pas de problème quand il passe en Suisse ?
Non, les particules n'ouvrent pas, n'ont pas le temps de s'arrêter pour ouvrir un compte en général. Et donc, juste avant que cet appareil soit arrêté, des chercheurs français ont dit « Oh, mais attendez, surtout ne nous arrêtez pas, on est sur le point de trouver le boson de Higgs, et si vous nous arrêtez, les Américains vont trouver avant nous. » Ah, ils ont gagné un petit peu de temps, je crois, 2 mois, mais malgré tout, il fallait quand même faire les travaux, et voilà. Bon, c'était peut-être aussi un moyen de vouloir poursuivre leurs expériences, sachant quand même que les Américains n'avaient pas non plus d'appareils suffisamment puissants, donc il aurait fallu qu'ils fassent des expériences à n'en plus finir. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas trouvé pendant l'arrêt du CERN. Quand le LHC, le Large Hadron Collider, a été mis en service, après quelques soucis, eh bien, on va dire, c'est à peu près 2 ans plus tard, effectivement, la première découverte de ce nouvel appareil est le boson de Higgs, comme prévu, en fait.
Ouais, c'était.
Alors, pour répondre un peu plus à ta question sur la matière noire, maintenant, on a effectivement découvert le boson de Higgs. Allez, il y a une chance sur 10 000 que ça ne soit pas ça. Ils sont quand même prudents. Mais dans le cas où c'est ça, on sait où chercher et on sait maintenant comment reproduire des expériences pour aller plus loin et étudier de plus près cette particule de champ. Est-ce que c'est une particule ordinaire, comme les autres, un boson comme les autres, quoi. Ou est-ce qu'il va effectivement nous montrer un côté de la matière qu'on connaissait moins ? Et là, peut-être, que ça peut être une ouverture vers la compréhension de la matière noire. Mais aujourd'hui, rien ne peut le dire tant qu'on n'est pas été plus loin.
D'accord. Eh bien, merci Patrice pour cette rapide présentation. J'imagine qu'il y aurait de quoi en dire bien plus, pendant bien plus longtemps.
Si on démarre sur la physique quantique, on peut y passer la nuit.
Mais on sera viré du studio un petit peu avant.
On fera une nuit physique quantique sur Radio G.
Voilà, c'est promis. Donc, on enchaîne. Moi, je voulais faire un petit focus sur un groupe qui s'appelle Public Image Limited, qu'on appelle aussi PIL. Un groupe formé en 1978 par John Lydon, l'ex Johnny Rotten des Sex Pistols, de McLaren, que je dise pas de bêtises, voilà. Et qui est parti fonder donc Public Image dans son coin, influencé par tout ce qu'il aimait, le dub, le krautrock, hein, donc ce rock allemand de la fin des années 60. Et un groupe qui va contribuer à poser du moins les bases de la période post-punk. Un groupe qui va être actif de 1979 à 1992. Et qui est revenu très récemment, puisqu'ils ont sorti, après 20 ans d'absence, John Lydon a sorti un album au mois de juin dernier. Un album en partie financé par une publicité qu'il a tournée pour du beurre anglais. Comme quoi, on le voit faire des choses commerciales, mais c'est ce qui lui permet de continuer à exister artistiquement. Donc je voulais vous permettre d'écouter un petit peu du PIL, qu'on n'entend pas forcément beaucoup à la radio. Alors avec deux titres. Un titre de l'album Metal Box de 1979 et un titre de son dernier album.
man. I am no vulture. This is my culture. The laws of nature, they allow less and free. We come from chaos. You cannot change us. Cannot explain us. And that's what makes us. We are the ageless. We are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance. We are the last dance. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop. And free. We come from chaos. You cannot change us. Cannot explain us. And that's what makes us. We are the ageless. We are teenagers. We are the focus out of the hopeless. We are the last chance. We are the last dance. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. Explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focused, out of the hopeless. Born in London, out of London. Born in London. But really we are born everywhere. One drop in all of this ocean. Not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion. Not got no proper emotion. One drop, all of this ocean. Get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. Come from chaos. You cannot change us. Cannot explain us. And that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers. We are the focused, out of the hopeless.
Now get on the good foot. Now follow the motion. Got proper, proper emotion. Not gotta be causing commotion. One drop and all of this ocean.
Donc c'était Public Image Limited, le premier titre Swan Lake sur l'album Metal Box de 1979.
Une vraie boîte en métal d'ailleurs, je peux en témoigner.
Vraie boîte en métal, effectivement, pour le vinyle comme pour le CD par la suite. Et le dernier album, donc sorti en juin dernier, le titre One Drop, qui est probablement le titre un petit peu connu, qui tourne sur Internet, en concert, ou le clip, ou ce genre de choses.
Dans une vraie boîte normale.
Dans une boîte tout à fait normale, oui, plutôt colorée.
Un digipack.
Un digipack, voilà. Donc, de retour dans l'émission Imaginaire sur Radio G, nous allons maintenant aborder le thème de cette émission, le thème central sur lequel on va un petit peu discuter, à savoir l'Uchronie. Donc déjà, accordons-nous peut-être sur une définition pour nos auditeurs. L'Uchronie, qu'est-ce que c'est en gros, en quoi ça consiste, n'est-ce pas?
Oui, eh ben écoute, l'Uchronie, en fait, c'est une vision liée à la science-fiction, bien sûr, puisque on change quelque chose dans le passé et on regarde ce qui se passe à notre époque. Donc, par exemple, l'exemple type récent, c'est Rêve de gloire, c'est-à-dire que le général de Gaulle se fait tuer en 1961, alors qu'il est mort en vrai en 68-69. Et
dans l'attentat, dans le fameux attentat, mais précisément, il n'est pas passé par le petit Clamart, et c'est pour ça qu'il s'est fait tuer.
Voilà, il est passé par la Croix de Bernier. Au lieu d'avoir deux jeunes hommes avec des armes légères, c'est une mitrailleuse avec une doucette, et donc la déesse blindée ne suffira pas. Et du coup, ça entraîne un certain nombre de phénomènes qui sont pas vraiment étonnants. C'est-à-dire, par exemple, que la décolonisation de l'Afrique se fait beaucoup plus lentement, voire pas ou peu. Donc, une partie de nos jours, enfin dans les années 90, une partie de l'Algérie est encore française, tout l'Algérois. Et donc, on regarde ce qui se passe au travers de personnages qui vont traverser les différentes époques que nous présentent.
On part du principe que dans le passé, il y a eu une situation différente, l'histoire a dévissé, et ça aboutit à une nouvelle situation dans laquelle on jette des protagonistes sur une intrigue.
Par exemple, des historiens se sont amusés entre guillemets à faire disparaître la maîtresse du président de l'Assemblée en 1940. Sa maîtresse est morte 3 jours après que Pétain signe l'armistice, et là ils la font mourir 3 jours avant. Et donc, du coup, il se retrouve dans un état de faiblesse qui fait qu'il va se retrouver influencé par les jusque-boutistes comme le général de Gaulle. Et donc, Pétain va être arrêté pour haute trahison, et on va regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que
La France continue
à se battre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte après que la Wehrmacht était vraiment au bout de ses lignes de ravitaillement et qu'elle avait beaucoup de mal à continuer à avancer facilement. Donc là, il y a la résistance se fait en France, non pas pour arrêter l'invasion allemande parce que c'était impossible, mais pour pouvoir replier les troupes belges, anglaises, françaises sur les colonies ou en Angleterre, de façon à pouvoir continuer à maintenir une machine de guerre. C'est-à-dire que les usines sont des historiens.
Une immense uchronie sur Internet, c'est ça.
Hein, alors c'est sorti, il y a un livre qui a été édité qui en parle. Ils ont sorti donc les années 40-41. La suite est en cours. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'est une sorte de challenge qui avait été fait par 3 historiens français sur Internet, comme tu le disais. Et des historiens de tous les pays se sont rajoutés les uns derrière les autres. Russes, allemands, américains, anglais. Avec un résultat assez étonnant. Donc les Allemands à l'époque, enfin les Italiens occupent la Libye, et c'est vraiment le seul territoire d'Afrique qui est tenu par les forces de l'Axe. Et donc les Anglais et les Français vont les virer de Libye, en sachant que du coup la flotte française s'allie à la flotte anglaise et arrive à tenir la mer Méditerranée. Donc c'était un exemple assez intéressant pour dire que ça franchit les lignes de la littérature de l'imaginaire, parce que les historiens eux-mêmes se penchent sur le...
D'accord. Donc là, pour une définition de base, on peut dire qu'il y a déjà quelques classiques. Hein, on parlait de Rêve de gloire qui a été primé aux Utopiales, si je ne m'abuse, aux dernières Utopiales.
Il a aussi obtenu le prix de Festival de Saint-Malo, les étonnants voyageurs de Saint-Malo.
Il y en a eu plusieurs.
Oui. Il y a évidemment, je pense que dès qu'on parle d'Uchronie, on pense au Maître du Haut-Château de Philippe Cadic, qui part du postulat que ce sont les forces de l'Axe, là encore, cette fois-ci, qui ont gagné la guerre, ont conquis l'ensemble du monde en collaboration, enfin avec le Japon, qui font partie des forces de l'Axe, donc. Et il existe dans un château reculé un écrivain qui aurait écrit ce qui pour le coup serait une fiction, mais ce qui serait l'histoire réelle, c'est-à-dire une version dans laquelle les Allemands n'auraient pas gagné, quoi.
Et là, c'est carrément une mise en abîme de l'Uchronie, puisque c'est une Uchronie dans l'Uchronie.
Oui, parce que sinon, pour l'Uchronie tout court avec les Allemands qui gagnent la guerre, on a aussi Fatherland de Harris. Bon, c'est souvent un thème, hein, les nazis ont fini par gagner. Ça fait suffisamment peur, à mon avis, pour que ce soit exploré
dans le cadre de l'Uchronique. On a bien pris soin de ne pas utiliser ce thème pour notre recueil.
Oui. Oui, d'ailleurs, j'y viens. Ça me permet de venir au recueil de l'association imaginaire qui s'appelle Uchronique. Donc, un recueil avec 16 nouvelles, hein, si je ne m'abuse. Oui. 16 nouvelles, un mélange de personnes de l'association, l'appel à texte dont tu parlais avec 3 lauréats et des invités prestigieux tels que Jérôme V, Philippe Ward, Roland Wagner, que j'ai appelé Robert tout à l'heure.
Oui.
Je me pardonnera. Robert Darvel, par contre, ce qui n'est pas Roland Wagner, Roland Darvel. Et plein d'autres, hein. On va pas faire l'intégrale du casting.
Et il y avait d'ailleurs une très belle définition de l'Uchronie au quatrième de couverture qu'on pourrait peut-être...
Oui, ben je vous la lis. Hein, je vous la lis. Donc, l'Uchronie est un jeu. Peut-être les spécialistes du genre trouvent-ils ces propos uchronoclastes, peut-être d'autres ne connaissent-ils pas le mot. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage se propose de démontrer que l'Uchronie, à savoir le temps qui n'existe pas, est un jeu littéraire qui consiste à réaiguiller l'histoire à un point de divergence possible. Pour continuer à évoquer l'Uchronie, moi je voulais aussi éventuellement vous parler un petit peu de bande dessinée et de jeux de rôle, ce qui permet de voir que ça a été traité sur d'autres médias, d'autres manières d'aborder les choses. On a la série Jour J, une série de bande dessinée chez Delcourt, avec les Russes sur la Lune, Paris secteur soviétique, Septembre Rouge, Octobre Noir, donc des titres qui parlent d'eux-mêmes. On sent déjà qu'il y a l'Uchronie rien que dans ces titres-là, hein. Les Soviétiques qui posent en premier le pied sur la Lune, l'URSS a progressé jusqu'à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, un Paris occupé et partagé en secteurs comme le fut Berlin. Voilà, une série de 9 bandes dessinées à ce jour, illustré à la couverture par Manchu, qui lui-même a illustré la couverture du Chronique. À voir comment l'association imaginaire est tendance.
Absolument, bah, c'est...
totalement tendance. Non, mais sinon également, c'est un thème qui est exploré aussi par les rôlistes. Alors là, je fais mon petit quart d'heure, enfin pas un quart d'heure, on n'a pas,
non,
mes petites 3 secondes d'autopromo en parlant de Warsaw, un jeu de rôle qui part du postulat que la Première Guerre mondiale, commencée en 1914, continue, est toujours en cours en 1964, et le jeu prend place en Pologne, une Pologne occupée par les deux gros blocs que sont le Nord-Reich allemand et le Kaliningrad soviétique, qui sont les deux seuls à avoir continué la guerre. Donc édité chez John Doe. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur l'Uchronie? Est-ce que...
Oui, achetez le livre.
Achetez le livre.
On le trouve où, ce livre?
Alors on le trouve à différents endroits. On le trouve à Phénomène J, bien sûr. Mais on le trouve aussi à la librairie Richer, à la librairie Contact, donc les deux grands libraires généralistes d'Angers.
Ok.
Il est possible de le commander sur le site internet Phénomène J.
On se remet un peu de musique.
On se remet un petit peu de musique et je vais laisser Antoine nous présenter le morceau.
Alors en l'occurrence, il y en aura 2, si toutefois on a encore un petit peu le temps, pas sûr. Bon, en tout cas, on va partir sur le premier. Ça va me donner l'occasion de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, qu'on fera peut-être, j'espère, plus tard, c'est le cinéma. Et là, je vais proposer une sorte de bande-son d'un film qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un groupe assez représentatif d'un genre qui était la musique électro-industrielle. Un groupe précurseur en la matière, qui synthétise pas mal de sous-courants. Le rythme à la Franc de 4-2, et puis le bruit à la Suicide, Cabaret Voltaire. Donc, c'était une sorte de synthèse en 85 quand ils ont commencé à proposer ce genre de son. Tout ça allié à des prestations scéniques très très marquantes, deux types qui arrivent le visage entouré de bandelettes, qui tournent le dos au public, enfin ça met une sorte de jolie petite ambiance. Et je voulais passer ce morceau là qui s'appelle Cold as Ice, et que j'aurais bien vu pour la bande originale du moyen métrage de Caro et Jeunet, Le Bunker de la Dernière Rafale, pour ceux qui connaissent.
Oui,
donc je pense au niveau de l'ambiance ça colle parfaitement bien. Donc voilà ma petite proposition d'un film imaginaire.
Voilà pour The Clinic sur Radio G. L'émission se termine.
Prochaine émission. Prochaine émission, Luchronie laisse sa place aux super-héros. Ça va causer comics, BD et tout ça. À bientôt.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des.
Whip, des. Clip, crack,
des.
Bang,
des.
Bang,
et des.
Zip, shibam.
Les swings et les uppercuts, ça fait,
yam,
ça fait,
splash,
et ça fait,
ch'tan,
ou bien,
bon,
ou, oh, parfois même,
shabam, pow, blow, wheel.
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
oui,
des,
clip, crack,
des,
fang,
des,
blow,
et des,
zip, shabam, pow, blow.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
win,
quand on s'envole et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam, pow, blop, win.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blop,
et des
zip, shabam, pow, blop, win.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là,
crack,
pour te protéger,
chlac,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
slack, shabam, pow, blop, win, shabam. Shabam, pow, blow, whiz.
Radio G 101.5 FM.